Vous écoutez France Culture.
Soft Power jusqu'à 20h en direct. Soft Power donc en direct jusqu'à 20h depuis le tout nouveau studio numéro 1, c'est son nom de la maison de la radio. Nous sommes désormais au 8e étage, un peu perdu dans cette maison ronde, tout nouveau, tout beau, nouveau studio pour France Culture et aussi pour Soft Power en direct tous les dimanches à partir de 20h. Bonsoir à tous. Au sommaire ce soir de ce magazine de France Culture consacré aux industries créatives, aux médias et aux internets, nous reviendrons sur les résultats, ce n'est pas vraiment une surprise, en Algérie où Abdelaziz Bouteflika a été réélu président dès le premier tour en fin de semaine. Nous serons en direct d'Alger par téléphone avec deux correspondants et avec Karine Barzegar ici en studio. Vous travaillez, bonsoir madame. Vous travaillez pour TV5 Monde et vous êtes rentrée d'Alger hier soir. Bienvenue à vous. Toujours au sommaire de cette émission, j'accueille ce soir Jamal Haini, journaliste média BFM Business. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Avec vous, on débattra d'un sujet à la fois passionnant et complexe. Comment parler des médias dans les médias. Ce sera notre sujet en seconde partie d'émission avec nous aussi pour ce débat, Pierre Aski de Rue 89. Bonsoir,
bonsoir
Pierre. Et Agnès Chevaux, bonsoir.
Bonsoir.
Et tout de suite, pour commencer cette émission, on revient sur la libération de nos confrères journalistes. Alors ça s'est passé, ça a été annoncé hier, ils sont revenus ce matin en France. Donc nos confrères, notamment d'Europe 1 et de différentes autres radios, ont retrouvé leur pays. Je vous propose de les écouter pour commencer. C'était ce matin sur différentes radios, souvent avec beaucoup d'émotion en direct, notamment chez nos confrères d'Europe 1.
Grosso modo, sur les 10 mois et demi, on est resté 10 mois complets dans des sous-sols sans voir le jour, un mois et demi entièrement enchaînés les uns aux autres, voilà, donc c'était parfois un petit peu rock'n'roll, beaucoup d'ennuis, de la tension, du stress.
Nous avons tous les quatre traversé la frontière avec la tête tout à fait découverte et les mains dans les poches, et nous avons été dirigés par nos ravisseurs vers une position de l'armée turque qui nous a pris en charge hier soir.
Il y a eu pas mal de déplacements, oui, et beaucoup de... Enfin, on était un peu plongés dans le chaos syrien.
Vous avez été bien traité?
Pas toujours. Je vous remercie.
Plusieurs donc de ces journalistes, notamment Édouard Elias, Didier François, Pierre Torres et Nicolas Hénin, libérés hier, sortis de l'enfer syrien et retournés, revenus ce matin à Paris. Pierre Aski sur ce sujet.
Oui, les quatre journalistes français donc sont de retour libres et en bonne santé, et c'est évidemment une bonne nouvelle. Mais les images de ce matin à Villacoublay avaient un air de déjà-vu, les retrouvailles avec les familles, les confrères, la présence du chef de l'État, du ministre des Affaires étrangères, la joie et l'émotion sincères. Depuis les années 80, c'est hélas devenu un rituel de la vie internationale, de Jacques Chirac à François Hollande. Et Didier François a eu raison de dire ce matin que ses confrères et lui avaient eu la chance d'être d'un pays qui se démène pour faire sortir ses otages.
Oui, Serge Julie a même dit hier, la France libère toujours ses otages. Bon, oublions au passage qu'un certain nombre d'entre eux, notamment de RFI, avaient été tués il y a quelques mois, n'étaient pas revenus pour eux.
Oui, tout concerne. À fait, mais en tout cas, tout est fait, même si le résultat n'est pas toujours au rendez-vous, tout est fait pour qu'ils reviennent. Mais pourquoi est-ce important? Parce qu'on sent bien qu'il y a parfois des polémiques autour de ces prises d'otages. D'abord, rappelons que la France a une tradition de reportage sur tous les fronts mondiaux, de journalistes témoins de l'histoire immédiate. Rappelons simplement Albert Londres, référence suprême de notre profession, qui de Cayenne à Shanghai a sillonné le monde pour la presse française au début du XXe siècle. C'était un petit club autrefois limité aux Britanniques, aux Américains et aux Français, aujourd'hui plus diversifié. Lorsque j'étais correspondant en Chine, la télévision d'État chinoise avait envoyé pour la première fois une équipe de reporters en Irak, c'était en 2003, pour couvrir un conflit dans lequel la Chine n'était pas impliquée. C'était le signe qu'elle devenait une puissance mondiale avec cette nécessité de s'informer et de comprendre le reste du monde où elle est de plus en plus présente. Alors François Hollande a dit ce matin que la France était fière d'avoir des journalistes de la trempe de ceux qu'il accueillait à Villacoublay. Et c'était juste car ces quatre reporters ne sont pas des têtes brûlées en quête d'aventure. J'ai travaillé 20 ans avec Didier François à Libération lorsqu'il était correspondant à Moscou au temps de la guerre de Tchétchénie. Et je sais que c'est un professionnel aguerri et exemplaire. Mais les journalistes ne sont pas les seuls à courir des risques. On le voit avec la prolifération des otages ces dernières années, notamment dans le Sahel, touchant des employés d'entreprises françaises ou même un prêtre comme le père Georges au Nord Cameroun l'an dernier. Mais j'ai fait partie du comité de soutien aux quatre otages de Syrie et je sais qu'une préoccupation constante de ce comité a été de ne pas isoler le sort des journalistes de celui des autres otages français et étrangers. Le reproche de corporatisme qu'on entend régulièrement est à mes yeux infondé. Un otage est un otage, même s'il ne faut pas oublier que sans le travail de ces journalistes, nous risquons d'être aveugles aux soubresauts du monde. Et ce n'est pas un hasard si nous disposons de beaucoup moins d'informations sur la Syrie depuis les prises d'otages de ces quatre confrères qui ont mis un coup d'arrêt à l'envoi de journalistes en Syrie. La guerre, depuis, se déroule à huis clos. Et il y a quelques années, vous vous en souvenez, un général français avait critiqué une équipe de télévision qui avait été prise en otage en Afghanistan en estimant que ça coûtait trop cher à la France. C'était une phrase malheureuse car informée sur un pays dans lequel la France est impliquée militairement, est une exigence démocratique et y renoncer, c'est donner la victoire aux preneurs d'otages.
Pierre Aski de Rue 89, sur ce même sujet, Agnès Chevaux, il y a aussi des critiques qui sont faites, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, au fond on en ferait un petit peu trop, comme si les journalistes étaient eux-mêmes pris en otage, au fond, par les médias français.
Il y a toujours des critiques récurrentes à chaque fois qu'il y a libération d'otages, hein. C'est-à-dire qu'on légitimement, on se pose la question de savoir pourquoi, comment, à quel prix ont été libérés ces otages. Je crois que par-delà les polémiques, il faut évidemment d'abord rappeler qu'il n'y a pas de corporatisme. Hein, c'est-à-dire qu'il est important de se battre pour que des journalistes soient libérés, otages soient libérés. Et que de ce point de vue-là, il faut plutôt se réjouir d'être effectivement dans une démocratie qui se bat pour que les otages journalistes soient libérés. Surtout au regard d'un contexte mondial où la liberté de la presse n'est pas toujours très bien défendue. Hein. De ce point de vue-là, les bilans que publie Reporters sans frontières sont assez éloquents. En 2013, 61 journalistes ont été tués, 826 journalistes ont été arrêtés ou interpellés dans le monde et plus d'une trentaine, 37 journalistes ont été otages ou ont disparu. Donc c'est quand même un bilan qui est assez peu réjouissant. C'est pour ça que au-delà des vies humaines, bien sûr, et de l'émotion qu'on a pu voir ce matin, il faut plutôt s'en réjouir, même si, quand on regarde qui sont ces journalistes qui ont été retenus par otage, c'est aussi un des phénomènes, à mon avis, assez significatif. Parmi eux, il y a quand même deux journalistes qui sont des journalistes freelance, hein, les deux photographes, qui sont des journalistes indépendants. Et là aussi, c'est d'autant plus important que ça met aussi en lumière,
d'une certaine
façon,
ça dit aussi ce qu'est la profession.
Voilà, la précarité de cette profession, et elle a d'autant plus besoin d'être protégée qu'elle est de plus en plus précarisée.
Et c'est parfois ceux-là même qui sont les plus exposés.
Oui, ils sont, et heureusement d'ailleurs d'une certaine façon que la profession et que des associations se sont mobilisées, parce qu'après tout, ce sont des gens qui sont assez seuls et il n'y a pas de rédaction forcément pour les soutenir et les défendre.
Pierre Aski.
Oui, c'est vrai que c'est un problème croissant puisque les rédactions engagent de moins en moins de reporters pour aller sur ces fronts et que ce sont des gens qui ne disposent plus de cette protection quand même qui est celle d'une grande rédaction. On a vu comment Europe 1 s'est mobilisé pour Didier François et là, c'est si l'État ne prend pas le relais pour assurer la sécurité de ces freelances qui tombent dans
les pièges,
il n'y a plus personne et ils se retrouvent livrés à eux-mêmes.
France Culture, 19h09.
ناس كل كواوها داوها عماوها في بير كبير رماوها ايجا الفيشه ما داروا حتى دوسي جاب نتيجه الخساره مفيشه والمردوده وديما وزن الريشه شبيبه مفيجه مبيجاش وما راهيجه ومطيشه حكومه راشيه فاشله ماشيه وشاده فهاد المعيشه ديجا في المشاريع التجاريه راحوا تلاحوا باعوا شراوا ما داروا حاجه ايجابيه الشركات الاجنبيه زعما جايه تستثمر هي سرها كان مسطر به تسرق تسلو تتسطر نستنكر يا ستار العار وتحت الستار من البزنسه تاع نفطال جماعه ارسلور ميتال من الكرو للديتاي من صيدال سبيطار لي ولا ولا سمساري سوق سلعه الناسيونال سرقوا صرفوا نورمال درك سوارد البلاد بالباره الكلاب الخايبه الغداره خربوها غير باد دباره غدروها هربوا كل برا حبونا ناكلوا بعضانا كنا عندي بيا تاع باره نعطيهم بالبالا بارا كلاوها قد هنسنا وما خلاوها البلاد خلاوها خيراتها كل خداوها خواوها ولا جناس كل كواوها داوها عماوها في بير كبير رماوها كلاوها قد هنسنا وما خلاوها البلاد خلاوها خيراتها كل خداوها خواوها ولا جناس كل كواوها داوها عماوها في بير كبير رماوها كلاوها.
À l'instant, le rappeur algérien Lotfi Double Canon, je le dis à l'américaine, il fait partie de ceux qui se sont mobilisés contre la réélection d'Abdelaziz Bouteflika, en particulier avec des chansons comme Klawa, que l'on écoute à l'instant, ou encore Fakakir, si on le dit comme ça, au point même de déclarer au journal Al-Kahabar « Je ne reviendrai pas en Algérie tant que Bouteflika sera au pouvoir ». Dans Soft Power ce soir, première partie, première heure de cette émission, nous allons parler de l'Algérie avec le Focus Média d'Ania Chevaux. Ensuite, on retrouvera Pierre Aski, puis Karine Barzegar qui collabore à TV5 Monde. Et puis nous serons aussi en direct d'Alger avec Ahmed Tazir, journaliste à LCP et ancien correspondant de France 24 à Alger, ainsi que Mélanie Matarez qui est rédactrice en chef d'El Watan le week-end et qui s'est occupée du chef, qui était la rédactrice en chef, pardon, elle s'est occupée du site El Watan 2014. Ania Chevaux, pour commencer, élection 2.0, on pourrait l'intituler comme ça en Algérie, après la réélection d'Abdelaziz Bouteflika pour un quatrième mandat, vous revenez, Agnès, sur le rôle joué au cours de cette élection présidentielle par les réseaux sociaux.
Oui, Frédéric, car l'émergence des réseaux sociaux a été perçue comme la véritable nouveauté dans cette élection. Avec 11 millions d'internautes, dont 60% ont entre 20 et 35 ans, l'arrivée de la 3G il y a 4 mois, la donne a bel et bien changé. S'ils ne sont que 800 000 Algériens seulement sur Twitter, plus de 6 millions sont déjà sur Facebook où la campagne a fait rage. C'est donc la première fois qu'une élection s'est jouée aussi en ligne, ainsi que le souligne le blogueur Abdou Semar.
Ça s'est joué énormément sur Internet. Ça a permis à l'opposition de s'épanouir et ça a permis à la société civile de dire que j'existe enfin. Il y a une liberté de temps qui ne cesse pas de croître. Il lâche de plus en plus du lest parce qu'il est exposé à des pressions qui sont énormes. Il n'a pas le choix, il a compris qu'il n'a pas le choix, qu'il doit composer avec nous. Il compose avec nous. Internet est devenu l'oxygène des Algériens. Et je pense que c'est un mouvement irrémédiable que ni la censure, ni l'étouffement économique ne pourront empêcher.
Alors les réseaux sociaux ont dès lors, à l'instar du rôle joué dans les révolutions en Tunisie ou en Égypte, constitué un espace de liberté inédit et massif. Et la contestation sur ces réseaux s'est cristallisée autour du quatrième mandat, perçu comme l'ultime provocation d'un système dont le mépris, la ogra, n'a plus de limite.
Un espace de liberté qui contraste donc avec le paysage, dans ce paysage médiatique.
Alors oui et non, parce qu'il existe une presse foisonnante en Algérie qui s'est montrée critique et qui n'a eu de cesse de dénoncer la candidature fantôme du président sortant. Mais ce pluralisme d'apparence paraît artificiel et les pressions sont nombreuses, à l'instar d'Algérie News qui s'est vue privée de publicité publique, qui en Algérie est une ressource vraiment importante. Alors du côté des télévisions, l'émergence des privés a donné naissance à un ton nouveau. La preuve, Zaher TV, qui s'est imposée comme la quatrième chaîne du PAF algérien, a lancé dès juin 2013 Controverse, une émission politique animée par Khaled Drareni. Alors la maladie du président, les émeutes dans le sud du pays, l'autonomie de la Kabylie, aucun sujet n'a été évité et sa liberté de ton contraste avec quelques moments cultes notamment, comme celui au cours duquel
le directeur de campagne de Bouteflika lui-même
est mis en cause par l'animateur qui lui demande s'il n'en faisait pas trop lorsqu'il qualifiait le président sortant de don de Dieu et du coup Abdelmalek Selal sort du plateau avec fracas, comme quoi il n'y a pas qu'en France que ça arrive.
Émission d'ailleurs suspendue car l'actionnaire de cette chaîne, Zahir TV, demeure proche du pouvoir, alors que sur les réseaux sociaux, la contestation, elle, ne connaît pas de limite.
Oui, car sur les réseaux sociaux, contrairement aux médias traditionnels, point de pression. La fronde sociale qui a secoué l'Algérie depuis l'annonce de la candidature de Bouteflika a pu trouver un relais efficace, notamment avec le fameux mouvement Barakat, ce qui veut dire « ça suffit », dont les manifestations ont été largement suivies sur la toile grâce aux photos, grâce aux vidéos mises en ligne en temps réel, et les arrestations musclées des manifestants relayées grâce aux tweets instantanés avec notamment les hashtags Barakat et Barakat qui ont mis en lumière les limites du régime.
Et puis Twitter donc, qui s'est imposé comme un espace de discussion, je dirais presque à part entière.
Oui, parce que tous les épisodes marquants de la campagne ont été allègrement commentés. En témoigne l'apparition de nombreux hashtags autour de l'actualité des présidentielles. Exemple sur le hashtag Boutef, de jeunes migrants clandestins des Haragas envoient un message depuis leur embarcation de fortune en haute mer sous forme de vidéo en disant « Ya Bouteflika, garde ton quatrième mandat et bye bye l'Algérie ».
Ce qui n'a pas, Agnès, été véritablement du goût des autorités.
Bah, pas vraiment, d'autant que les candidats à la présidentielle, eux, ne se sont quasiment pas saisis des réseaux pour faire campagne. Le compte officiel du candidat Bouteflika ne compte que 400 abonnés. Aussi, il n'est guère étonnant que Amara Ben Younes, porte-parole de Bouteflika et ministre du Développement industriel, nie toute raison d'être de cette contestation sur les réseaux qu'il considère comme forcément truquée.
Oui, ça se joue sur les réseaux sociaux, mais la réalité, c'est madame, c'est le terrain.
La réalité,
ce n'est pas Facebook qui va voter, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui vont voter, ce n'est pas Internet qui va voter, c'est le peuple algérien qui va voter. Effectivement, quand on sait comment ça se passe maintenant, les réseaux sociaux, nous savons qui sont derrière les réseaux sociaux, nous savons tous les faux profils qu'il y a derrière les réseaux sociaux. Vous savez très bien, madame, que n'importe qui d'entre nous peut avoir 50, 60 profils à aller sur Internet et faire ce qu'il a envie de faire sur Internet. L'essentiel pour nous, nous disons c'est bien Facebook, mais c'est mieux le terrain.
C'est pas Facebook qui va voter. Et ça n'a pas empêché les parodies d'essaimer partout sur le web.
Alors c'est une autre forme de la contestation qui est plus soft mais qui est très populaire. Fer de lance de cet humour 2.0, une génération de jeunes humoristes s'est emparée de YouTube. Alors ils s'appellent Dédé Joker, Anestina, Zaruta Youssef, Mister X et leurs vidéos peuvent dépasser le million de vues. Il parle un peu de tout, de l'arrivée de la 3G, de la religion, mais aussi des travers de la politique algérienne. Les parodies se sont multipliées pour moquer la candidature de Bouteflika, à l'image de cette reprise de Papa Outeille, de Stromae, par un internaute algérien qui a été vu plus de 150 000 fois sur YouTube.
Dites-moi comment il va, quel est son état de santé. Certains me disent ne t'inquiète pas, il arrive quand même à parler. D'autres disent qu'il ne bouge plus, qu'il n'arrive même pas à marcher. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ni dehors ni à la télé. Pas vrai, où es-tu Boutef? Dis-moi où es-tu Boutef? Sans même pouvoir parler, tu veux encore être le chef. Un sacré Boutef, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 4 fois que tu brigues un mandat. Et Bouteflika.
Au moins, la chanson est à la fois drôle et efficace sur YouTube.
Alors sur YouTube, toujours, le jeune humoriste Anestina interpelle Bouteflika dans un rap intitulé « Message au président » et lui demande de ne pas briquer un quatrième manga.
Avec Anestina, le succès que l'on sait.
Oui, c'est sûr. Mais il compte quand même 155 000 abonnés. Il explique, lui, qu'il peut aborder tous les sujets qui lui passent par la tête. Pour lui, il n'y a pas de censure en Algérie, car la liberté d'expression existe.
كيما يديروا الاحزاب كنت قادر نشيد لك سيدي الراي الزيد بصح نطبعك على راسك راني فيار باصلي الجيري عربي من الكبار وفوق هذا كامل امازيغي مسلم حار الجيري مسكينه جوزت وتمحنت من وقت فرنسا الكلبه للتسعينات كي تخلطت دوك الحمد لله بلادي راهي تطورت من 99 الحاله صح راهي تبدلت كوتي تاع الام سيفري راهي تسكمت نحينا الديون والايكونومي بالعقل طلعت حريه التعبير بارابور العرب زادت لابروف راني نهضر دركا معاك بلا ما خف
صح. Le clip, le vote en Algérie.
Alors justement, il a refait un autre clip qui s'appelle Le vote en Algérie et qui pourfend avec humour le processus électoral qui ne répond plus, selon lui, aux aspirations de la jeune génération. Internet, c'est le fléau du pouvoir algérien, expliquait récemment le rappeur qu'on a entendu en début de cette émission, Lofty Double Canon, qui s'est illustré avec des clips engagés contre le quatrième mandat. Enfin, il existe même en Algérie un Gorafi algérien.
Un Gorafi algérien.
Vous savez, ce site parodique français. Ouais. Alors celui-là, le Gorafi algérien est nommé Bled Mickey. Et lui aussi s'amuse de fausses nouvelles. Alors dans les fausses nouvelles qu'on a pu trouver récemment sur ce site parodique, on peut lire Abdelaziz Bouteflika. Il n'était pas malade, mais addict au jeu Candy Crush.
Oui, ça c'est drôle.
On peut aussi voir des ONG dénoncent un excès de liberté en Algérie. À l'approche des élections, la police algérienne détectera désormais l'esprit critique au barrage.
Finalement, cette mobilisation n'a pas vraiment joué son rôle et ni modifié l'issue du scrutin. Terrible, terrible vérité des urnes.
Et oui, on l'a vu et c'est vrai qu'ici comme ailleurs, il ne faut pas prêter trop d'influence aux réseaux sociaux sur les résultats d'une élection présidentielle, surtout en Algérie, où tous les observateurs affirmaient que le résultat était joué d'avance. Mais ce qui semblait émerger le plus des réseaux, c'est quand même un appel à l'abstention. Et de ce point de vue, le taux de participation de seulement 51,7%, en net recul par rapport à celui de 2009, qui était tout de même de 74%, montre que l'influence des réseaux sociaux en Algérie est émergente et qu'elle est susceptible de structurer à terme un espace public dans lequel la jeunesse aura enfin trouvé sa place à suivre.
France Culture, 19h21, c'était le Focus Média d'Agnès Chevaux. On reste sur l'Algérie, toujours dans cette première partie d'émission avec Pierre Aski, rebonsoir. Peut-être à la fois un commentaire et un prolongement de ce qui vient d'être dit pour rentrer dans le débat qui va nous occuper maintenant autour de l'Algérie.
Oui, je voudrais en fait reprendre là où Agnès a terminé, c'est-à-dire sur le manque d'impact apparent sur le résultat du vote, de l'émergence des réseaux sociaux et plus généralement du pluralisme relatif de l'information en Algérie. Et c'est un élément de plus en fait dans l'analyse de l'émergence des réseaux sociaux sur la scène arabe depuis la révolution tunisienne il y a un peu plus de 3 ans. Après la phase d'engouement, souvenez-vous, merci Facebook, pouvait-on lire sur les murs de Tunis, il y a eu un peu plus de réalisme en reconnaissant que les réseaux sociaux étaient certes un des éléments de la nouvelle donne culturelle, politique, sociale du monde arabe, mais ne débouchaient pas nécessairement à eux seuls sur des changements de pouvoir. Les Syriens, pour ne prendre qu'un cas, ont payé et payent encore pour savoir que des vidéos d'atrocités sur YouTube ne suffisent pas à faire tomber un régime dictatorial. Pour autant, il serait faux de dire que rien ne change. Autrefois, les élections se déroulaient sans fausse note, avec une machine de propagande bien huilée et des scores soviétiques à près de 100%. Cette époque est sinon révolue, au moins battue en brèche par l'émergence, en particulier, de ces réseaux sociaux. En Algérie, l'absence du principal candidat à sa propre campagne, puis cette image surréaliste d'un chef d'État impotent votant en chaise roulante, devant être aidé, y compris dans l'isoloir, pour mettre son bulletin dans une enveloppe, a marqué les esprits, y compris en Algérie. Le roi est réélu, mais le roi est nu, et ça change tout. Les dirigeants savent qu'un Algérien sur deux s'est abstenu d'aller voter, mais ils savent surtout que 100% des Algériens savent tout, y compris de la réalité du pouvoir en Algérie. Alors les réseaux sociaux font circuler l'information, mais ils ne construisent pas d'opposition organisée, ils ne font pas émerger d'alternatives. Et c'est ce qui manque cruellement à l'Algérie, comme au reste du monde arabe, largement prisonnier d'un face-à-face entre les islamistes et les résidus d'autocratie. Avec en Algérie un contexte particulier, avec le souvenir évidemment des années noires du terrorisme. Le premier ministre algérien, Abdelmalek Sellal, avait déclaré quelques mois après les révolutions tunisiennes et égyptiennes, je cite, « Le printemps arabe est un moustique. Nous avons pu fermer la porte pour qu'il n'entre pas. » Fin de citation. Il n'y a pas de printemps en Algérie, mais il n'est pas sûr que le moustique n'ait pas réussi malgré tout à pénétrer dans le pays.
Pierre Aski, avec nous ce soir. Bonsoir madame Karine Barzegar. Vous collaborez à TV5 Monde et vous avez couvert les élections présidentielles cette semaine. Vous êtes rentrée hier, c'est ça, d'Alger,
tout
je crois.
Fait.
Comment est-ce que vous vous décririez, puisqu'on est dans Soft Power, émission principalement dont le focus est sur les médias et les industries créatives, aussi l'Internet, comment est-ce que vous décririez le paysage médiatique, notamment après cette vague de libéralisation du paysage audiovisuel qui a eu lieu depuis 2012, à peu près, depuis janvier 2012, et qui pourrait laisser croire à une forme de liberté plus grande, alors que c'est un peu un miroir déformé, malgré tout.
Oui, tout à fait. En fait, depuis janvier 2012, fin 2011, janvier 2012, on voit émerger toute une série de chaînes de télévision privées, ce qui n'existait pas avant en Algérie, puisqu'on avait le monopole d'État de l'ENTV, c'est-à-dire le service public.
D'État, oui.
Monopole
d'État. Donc une myriade de chaînes désormais.
Une myriade de nouvelles chaînes, donc il y en a à peu près une dizaine, les plus regardées étant Enar TV et Chourouk TV. Donc ce sont des chaînes de télé qui sont des prolongements de quotidiens qui existent déjà. C'est-à-dire le quotidien et Chourouk existent, le quotidien Enar existe et donc il y a Enar TV et Chourouk TV qui ont été créés. Ces chaînes de télévision sont très regardées, c'est-à-dire que ça a poussé l'audimat de NTV vers le bas, mais de manière vertigineuse. Donc ce sont maintenant Enar TV et Chourouk TV que les gens regardent chez eux, y compris dans les familles populaires, si vous allez dans les logements sociaux, etc. Les télévisions sont allumées sur Enar et non plus sur ENTV parce que l'ENTV est complètement dépassé. Ils ont une sorte de couverture extrêmement protocolaire qui ne convient plus du tout à la population algérienne qui est très jeune, 70% ont moins de 30 ans. Donc voilà, les gens regardent maintenant ces chaînes d'information. Alors ce sont des chaînes qui paraissent relativement libres. Ça a changé le paysage audiovisuel algérien vraiment puisque on retrouve des débats, on invite des personnalités politiques que l'ENTV n'invitait pas. Il y a des face-à-face.
Mais en quoi alors la liberté est limitée ?
Alors la liberté est limitée puisque on ne peut pas tout dire malgré tout sur ces chaînes. On parlait tout à l'heure de l'émission Controverse où il y avait eu justement des débats assez houleux avec Célal et avec d'autres responsables politiques. Controverse a été enlevé de la grille pendant sur les dernières semaines de la campagne. Tout simplement pourquoi ? Parce que la chaîne appartient à quelqu'un de proche du pouvoir qui est Monsieur Haddad et qui est très proche de Saïd Bouteflika, le frère du président. Donc c'est limité. Il y a une ouverture, il y a une possibilité de parler, d'évoquer les problèmes, de mettre les personnalités publiques face à face. Mais malgré tout, les journalistes sont tout de même brimés. Et à la fin de cette campagne électorale, on ne doute pas. Je parlais avec des journalistes qui disaient qu'il va y avoir un nombre important de journalistes qui vont être limogés. On va tout simplement leur faire comprendre qu'on ne souhaite plus tellement qu'ils restent dans la chaîne ou dans la radio et que ça serait bien qu'ils démissionnent.
S'agissant des réseaux sociaux, notamment de Facebook, quelle est votre vision du rôle, de l'influence qu'ils peuvent avoir ?
Facebook est très, très important pour les jeunes Algériens. Ils ont tous un compte Facebook, plus qu'un email en général. C'est-à-dire quand on leur demande comment communiquer avec eux, ils vont donner leur nom Facebook, pas un email.
Notamment parce qu'il y a un chat interne qui permet au fond de discuter
interne,
sous Facebook.
Il y a la possibilité de partager des vidéos, faire circuler l'information très très vite. De plus, ils savent que c'est plus facile de communiquer via Facebook, via Internet, que par téléphone, surtout quand on est opposant aux militants. Après, Barakat a fait pas mal de travail sur Facebook, donc il y a le site Mouvement Barakat. 35 000 abonnés, je crois. Maintenant, ça reste limité, Facebook, parce que ça sert à permettre aux jeunes de se défouler. Donc, effectivement, il y a les vidéos des humoristes qu'on partage, il y a les vidéos des manifestations.
Vous voulez dire que ça permet de se défouler, mais pas de faire changer l'Algérie ? C'est ça l'idée, finalement ?
Pour l'instant, en tout cas, non. Mais c'est un début. En tout cas, c'est ce que disent la plupart des opposants et militants qui sont sur Facebook. Ils disent que c'est un début pour sensibiliser les jeunes, c'est un début pour faire une autre information, militante peut-être. Mais en tout cas, pas tout de suite pour ce qui est d'une révolution via Facebook, certainement pas en Algérie.
Avec nous par téléphone en direct d'Alger, Mélanie Matarez. Bonsoir Mélanie.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef d'El Watan, quotidien bien connu algérien et notamment de son supplément du week-end et aussi rédactrice en chef du site El Watan 2014 qui était le site qui suivait la campagne présidentielle. Comment est-ce que vous avez couvert au fond El Watan cette élection, Mélanie ?
On l'a couvert en se disant qu'à l'Ouattan 2014, en créant un site qui est exclusivement consacré à la présidentielle, j'en parle au présent parce qu'il est toujours, on ne l'a pas encore fermé, on attend un peu les développements de la préélection, on l'a pensé comme un site éphémère autour d'une thématique qui est la présidentielle. Et on s'est dit, il faut absolument changer la façon de faire de l'information et essayer de la diffuser en temps réel. Alors pour ça, on a mis en place des équipes qui se sont déplacées à deux ou trois sur les conférences de presse, les manifestations, les débats importants, où on relayait par des plateformes de retransmission en direct l'information, où on diffusait aussi de la vidéo, de la photo, où on utilisait tous les moyens dont on est disponible sur Internet pour donner l'information aussi vite que possible. Et donc on a utilisé aussi beaucoup, comme vous l'avez dit juste avant, les réseaux sociaux, c'est-à-dire...
Voilà, les réseaux sociaux, il y en a eu une petite coupure, les connexions sont assez difficiles ce soir avec l'Algérie pour des raisons simplement techniques, j'ai l'impression. Nous allons rappeler Mélanie Matarès et essayer d'avoir aussi nos autres correspondants tout à l'heure. Pierre Aski peut-être sur ce sujet. Déjà, El Watan se situe où dans ce paysage? Parce que c'est toujours complexe ce journal si important, en apparence si libre, d'expliquer exactement comment il fonctionne et d'où lui vient cette liberté.
Je pense qu'il faut distinguer...
La question facile.
Et ça, Karine peut peut-être mieux en parler que moi, mais il faut distinguer entre les organes de presse francophones et arabophones. Je pense qu'il y a une vraie différence. Ils ne sont pas lus par les mêmes publics, ils n'ont pas le même impact sur les opinions publiques. Et donc, de ce point de vue-là, El Watan, en particulier, a construit un périmètre d'autonomie et de sens critique. Et de professionnalisme aussi, il faut bien le dire, qui est assez remarquable.
Avec de nombreuses mises en examen, oui, de nombreux procès politiques d'interdiction depuis des années.
C'est une longue histoire, absolument. Mais moi, je voulais revenir et peut-être poser la question à Karine, puisqu'elle revient d'Alger. C'est parce qu'on a décrit depuis tout à l'heure, effectivement, le paysage nouveau, que ce soit sur les réseaux sociaux, les télévisions, là, on vient de parler de la presse, mais... Quel impact ça a eu sur le chiffre de la participation? Parce que l'abstention a atteint un niveau record bien supérieur au précédent. Mais est-ce que c'est dû à cette profusion d'informations, au fait que les gens n'ont pas eu envie d'aller voter? Ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas d'enjeu?
Je pense que globalement, ils savent qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire, pour nombre d'Algériens, c'était déjà joué d'avance, à part peut-être pour ceux qui ont milité pour M. Benflis, qui ont cru éventuellement à une victoire potentielle de leur candidat jusqu'au bout.
Alors qu'il n'y a même pas eu de deuxième tour.
Non.
C'était sa grande déception.
Et qu'il a gagné à 80%. Non.
Oui, mais je crois que même l'équipe de campagne de M. Benflis, tout en voulant y croire jusqu'au bout...
N'y croyait pas vraiment.
Ou en tout cas, y croyait très très peu, finalement. Pour ce qui est des Algériens en général, je pense que le ras-le-bol général par rapport à la situation sociale du pays, sociale et économique, fait qu'ils n'ont plus envie d'aller voter. C'est-à-dire que les jeunes ne croient pas dans ce système. Ils ne croient pas non plus à la politique. Ce qui fait qu'entre les trois derniers mandats, la manière dont le vote se passe, on a parlé des humoristes qui font des sketchs sur le vote, personne n'a spécialement envie d'aller voter en Algérie, d'où ce taux d'abstention. Par contre, je pense que la presse, que ce soit les chaînes de télévision, les informations relayées via Facebook ou bien la presse écrite, relaient des informations qui ajoutent à ce désarroi et à ce dégoût de la politique en général.
Alors, on a retrouvé Mélanie Matarès, rédactrice en chef d'El Watan Weekend. Rebonjour Mélanie. De votre point de vue, comment plus généralement avez-vous perçu cette élection et qu'est-ce qui est nouveau finalement du point de vue des médias?
Ce qui est nouveau, à mon avis, surtout, c'est la rapidité de la diffusion de l'information. Et encore une fois, grâce aux réseaux sociaux. C'est comme ça que les images des militants de Barakat réprimés par la police ont fait le tour du monde en moins de 24 heures. C'est aussi par les réseaux sociaux que les mouvements de protestation se sont organisés dans l'est du pays. Et en parallèle, enfin ça va un peu ensemble, l'utilisation du multimédia aussi a joué un grand rôle. C'est-à-dire que même s'il y avait une manifestation des chômeurs à Ouargla, dans le sud, une zone qui n'est absolument pas couverte par les médias, en l'espace d'une heure, on savait ce qui se passe, on avait les images, voilà, on était au courant de tout. Dans n'importe quel coin du pays. Et ça, c'est quand même quelque chose de très nouveau.
Et plus globalement, peut-être pour terminer cette discussion par téléphone, avec des liaisons qui valent ce qu'elles valent par téléphone, que pensez-vous de la liberté finalement des médias durant cette campagne, votre point de vue sur ce sujet?
Bah, je dois dire que la campagne a été très difficile pour les médias un peu critiques à l'égard du président Bouteflika. Il faut le dire, on a eu beaucoup de mal à travailler. Pas plus tard que la semaine dernière, deux de nos journalistes qui enquêtaient sur la fraude ont été agressés à coups de pierre par des personnes qui n'ont pas été inquiétées par la police. Vous en avez parlé, la chaîne Atlas TV a été interdite d'émettre. Du jour au lendemain, les gendarmes ont débarqué dans leur bureau pour saisir le matériel. Les pouvoirs publics ont aussi coupé la publicité à plusieurs quotidiens. Bon, alors ça, ce sont les attaques frontales. Mais souvent, c'est plus perfide. El Watan en fait quelque chose. Le journal est régulièrement harcelé par les impôts, par la sécurité sociale. Et son PDG, Omar Belouchet, est poursuivi pour un nombre incalculable dans un nombre incalculable de procès. Donc, il y a les attaques frontales, les attaques comme ça par le biais de l'administration. Et puis, des choses beaucoup plus sales. Les autorités se servent aussi de leur relais, dont certains médias, pour diffamer les journalistes. Alors, les pouvoirs publics ne reconnaissent pas officiellement le rôle des réseaux sociaux, mais ils n'en sous-estiment pas l'impact pour autant. Parce qu'on a vu surgir ces dernières semaines des pages Facebook diffamatoires où les journalistes critiques ont été salis et où il y a eu des appels à la haine et à la violence. On sait très bien d'où ça vient.
Mélanie Matarès, merci infiniment de ce témoignage, rédactrice en chef d'El Watan Weekend et du site créé spécialement El Watan 2014 pour ses élections présidentielles, était en direct d'Alger. Karine Barzegar, une question a été évoquée. Vous-même avez obtenu un visa pour aller en Algérie. On a vu que certains journalistes n'en avaient pas eu, d'autres en ont eu sur des périodes très courtes. C'est aussi un élément qui a été qui est très étonnant, cette manière de ne pas accepter la presse, même internationale, pour couvrir les événements.
Alors, de ce
peut-être
que
pas surprenant, mais quand même intéressant à signaler.
Non, pas surprenant, parce qu'en général, l'Algérie accorde les visas à la dernière minute et selon sa volonté sur une période qui lui convient et pas forcément les périodes que les journalistes demandent. Ce qui fait que sur cette élection-là, il y a énormément de journalistes qui ont demandé à partir en amont pour faire des avant-sujets, rentrer en France, pas forcément couvrir la campagne. Moi, j'en faisais partie. On avait demandé à partir fin mars pour rentrer... vers le 7 avril, eh bien, on a eu un visa, comme tout le monde, entre le 10 et le 20 avril, pour couvrir la campagne, rien que la campagne. Ensuite, en général, quand on fait une demande de visa en Algérie, on doit demander des villes précises. Donc à partir de ce moment-là, si on se déplace sur une ville ou dans une localité qui n'est pas sur la liste, à nouveau, c'est très compliqué. Si vous êtes contrôlé par des policiers sur place, vous pouvez avoir des problèmes, des petits problèmes, on va dire. Donc oui, ils ont voulu limiter le nombre de jours et la période. Donc, ils nous ont demandé, en gros, de venir, en tout cas pour les journalistes français, de venir entre le 10 et le 20 avril. C'est ce qui a été le cas. Il y a des journalistes qui l'ont eu bien tard, comme, je crois, la journaliste du Monde, qui n'a pu venir quasiment que le jour, la veille.
Isabelle Landreau, et elle est d'ailleurs ce soir dans l'avion, ce qui explique qu'elle n'est pas parmi nous ce soir. Il y a eu aussi, on l'a vu dans la nuit, hein, entre hier et aujourd'hui, 14 militaires algériens qui ont été tués dans une embuscade survenue donc dans la nuit en Kabylie, dans une région montagneuse à l'est d'Alger, au lieu dit La Carrière, dans la commune d'Iboudraren, au pied du massif du Jourouna, qui confirme quand même la situation qui reste très, très complexe, là en l'occurrence en Kabylie, Pierre Aski, plus globalement.
Oui, je pense qu'il y a une vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est comment le pouvoir va gérer une société qui, par l'émergence de ses moyens d'information, devient de plus en plus complexe. Et avec un pouvoir qui, lui, clairement dans une période de transition, parce que Bouteflika ne sera pas en mesure de l'exercer réellement. On a cette nouvelle problématique qui est dans l'ensemble du monde arabe, c'est qu'on a des gens qui ont de l'information, on a des nouvelles générations. On donnait tout à l'heure le chiffre des moins de 30 ans en Algérie, c'est absolument colossal, c'est 70%, et qui ont accès et qui savent utiliser ces moyens d'information, là où les dirigeants, il faut bien le dire, sont encore largement largués. Et donc, c'est une problématique que je trouve assez nouvelle depuis les révolutions et qui est un vrai point d'interrogation.
Les chevaux.
Sur le site internet de Reporters sans frontières, on dénonçait le pluralisme de façade en Algérie. Je crois qu'en fait, ça résume assez bien la situation. Il y a effectivement une presse foisonnante, il y a des télévisions privées, mais néanmoins, tout cela est quand même très contrôlé, reste très contrôlé par le pouvoir, et c'est bien le souci. Et d'ailleurs, Reporters sans frontières avait écrit à John Kerry, qui a rendu visite au président Bouteflika, pour justement que John Kerry puisse intervenir sur ces questions-là, et on a vu quand même un grand silence américain.
Pour terminer, Karine Barzega, je rappelle que vous collaborez notamment à TV5 Monde et que vous êtes rentrée d'Alger hier. Il y a aussi des messages d'espoir, notamment Algérie Focus, qui est un média plus engagé, ou encore Chouf-Chouf, qu'on pourrait traduire peut-être par Regarde-Regarde, qui est une sorte de portail de vidéos participatives. Tout ça illustre aussi que c'est une société fermée, bloquée, qui est incapable de bouger politiquement, mais qui, par sa société civile, est en mouvement.
Je pense que, justement, on parlait d'Algérie Focus et d'Abdou Samar qui dit que c'est un souffle nouveau. Et c'est vrai, ce sont les gens qui gèrent ces sites internet sont des jeunes, souvent de moins de 30 ans. C'est un souffle nouveau. Et quand on parle aux opposants et aux militants algériens, qu'ils soient sur Facebook ou bien qui travaillent dans ces chaînes de télévision, ils disent tous « il faudra du temps ». Il nous faut du temps. Donc du temps pour sensibiliser la population, du temps aussi pour éduquer cette population. Et donc ça va prendre, certains disent quelques mois, d'autres moins optimistes disent au moins 2 ans. Donc je pense que la réponse viendra des législatives de 2016. On verra à ce moment-là ce qui va se passer.
Ali Benflis va... Vu ce qui s'est passé au niveau des présidentielles, on peut toujours espérer que les législatives seront différentes.
Mais... on peut espérer, mais Ali Benflis va créer un parti. Il l'a promis, donc il a quand même réussi à faire une campagne solide avec des salles pleines. Barakat n'existe que depuis
Bouteflika
le 22 février.
Bouteflika ne sera pas éternel, évidemment.
Je ne sais pas si ça changera, sa présence ou son absence changera quelque chose par rapport au système algérien, qui est bien plus complexe que juste la présence ou l'absence de M. Bouteflika. Mais après tout, ce qui est important, c'est que voilà, c'est une société qui est en marche, en tout cas petit à petit. Et Barakat n'a, oui, à nouveau qu'un mois et demi. Donc...
Jamal Eni, vous travaillez à BFM Business. On reviendra avec vous tout à l'heure pour parler des médias, mais peut-être une réaction sur ces sujets, un pays aussi que vous connaissez.
Moi, je voulais souligner l'évolution positive des médias français qui ont été assez critiques sur cette élection et qui ont souligné son caractère grotesque. Et il y a 20 ans, les médias français étaient très très complaisants avec le régime algérien quand ils ont interrompu les élections, et osant très peu le critiquer pour un tas de raisons, parce qu'il y avait une culpabilité coloniale, il y avait aussi beaucoup de gens dans les médias français qui avaient soutenu le régime, l'indépendance algérienne, le FLN au début, et puis aussi c'était vu comme un rempart contre les islamistes. Donc pour toutes ces raisons, à l'époque, durant les premières années 90-95, les médias français étaient vraiment très très complaisants avec le régime et fermaient un peu les yeux sur ces exactions. Et aujourd'hui, Dieu merci, ça a changé.
Bien, ben, je crois qu'on va en rester là pour ce débat sur l'Algérie. On devait rejoindre Ahmed Tazir, journaliste à LCP, mais qui apparemment, la ligne téléphonique n'arrive pas à passer. Nous verrons, elle passait très bien il y a un petit moment, nous verrons pourquoi. Une autre fois, en tout cas merci, nous avions Mélanie Matarez par téléphone, merci Karine Barzégar qui collabore à TV5 Monde et Pierre Aski. Je vous propose, sans transition, de partir sur une discussion autour des médias, et on reste sur les sujets des médias, mais les médias qui parlent des médias. Mais juste avant, je vous propose d'écouter le violoncelliste Yo-Yo Ma, qui sera mercredi au Théâtre des Champs-Élysées. Il interprétera Danza Negra de Guarnieri, que l'on écoute précisément maintenant. Et sont également prévues la suite italienne de Stravinsky ou la Suna numéro 3 de Brahms. Thank you. France Culture, 19h43, dernière séquence de cette émission consacrée à la presse, aux médias qui parlent d'eux-mêmes, ce qui n'est pas un sujet facile. Avec nous, Jamal Henni, rebonsoir. À BFM Business, vous vous occupez notamment des médias. Journaliste média, c'est-à-dire qu'au fond, vous parlez à la fois de vos confrères et parfois, il faut aussi parler de votre propre groupe. Comment est-ce qu'on fait, au fond, comment est-ce qu'on travaille? Quelle est l'approche que l'on a, y compris du point de vue déontologique, en général? Et puis, on ouvrira le débat à Agnès Chevaux et Pierre Aski tout à l'heure, quand on doit faire ce type de travail.
Ben moi, j'ai travaillé sur les médias depuis 2007, avant aux Échos et à la Tribune, et là, sur le site de BFM. Et c'est vrai que c'est plus compliqué d'écrire sur les médias que sur d'autres sujets. Enfin, évidemment, couvrir des guerres, etc., je pense que ça va être vraiment plus difficile. Mais donc, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Des problèmes. D'abord, il y a tout bêtement on est un groupe de médias. Donc, BFM, il y a RMC, par exemple. Donc, régulièrement, il y a résultats d'audience de RMC. Alors, est-ce qu'ils sont évidemment formidables? Alors, est-ce qu'il faut que je fasse un article pour dire est-ce qu'ils sont formidables ou
pas? En tout cas, le Figaro le fait pratiquement chaque mois. On a droit à une page du Figaro qui décrit les succès foudroyants du Figaro. Donc, ça, c'est une option.
Voilà, c'est une option. Et donc, alors, moi, j'essaie de m'en tirer en, par exemple, m'abritant derrière ce que pensent les analystes financiers.
Et si ça baisse, par exemple, vous le faites quand même?
Je reprends les analystes financiers qui disent ça baisse. Voilà. Mais enfin, Dieu merci, les audiences du RMC sont excellentes. Mais
Et ensuite. Et au JDD, là, on parle du groupe Lagardère. On a même Arnaud Lagardère lui-même qui aujourd'hui parlait dans le JDD.
Tout à fait. Et les collègues du JDD me disent que la règle là-bas, c'est de dire du bien de tous les médias du groupe Lagardère, Europe 1, etc., etc. Mais ils ne disent pas forcément de mal de RTL et des concurrents. Mais ils disent toujours du bien des médias du groupe Lagardère.
Alors, second problème, le média pour lequel vous travaillez est concurrent des médias sur lesquels vous écrivez. Donc, évidemment, soupçon, si vous en dites du bien, c'est difficile. Si vous en dites du mal, c'est vous régler des comptes.
Tout à fait. Et donc, par exemple, en ce moment, notre groupe, donc, qui détient la chaîne d'information BFM...
Parle tous les jours de LCI.
Voilà, est très énervé contre le projet de passage en gratuit du LCI. Je crois que vous avez reçu Alain Veil, notre PDG, il y a quelques
Absolument.
Temps, qui a dit tout le mal qu'il pensait de ce projet-là. Donc, évidemment...
Le bien de vous, je vous rassure.
C'est très sympa, j'ai demandé une augmentation en revenant. Et donc, plus sérieusement, à chaque fois que je fais un article sur TF1 un peu poil à gratter, TF1 me dit « Ah, mais vous êtes en service commandé, vous êtes en service commandé, vous faites ça sur ordre, vous passez votre temps à nous trouver des poux dans les cheveux. » Donc voilà, donc je redis à TF1 par votre intermédiaire, non, M. Veil ne m'a donné aucune instruction et je fais ce que je veux. Et quand M. Veil a fait une conférence de presse pour taper sur TF1 pendant une heure et demie à peu près, bon, très courageusement, sur le site, on a mis la dépêche AFP qui reprenait ses déclarations, de façon à être le plus neutre et objectif. Non, mais sérieusement, c'est une des solutions pour sortir de ces problèmes-là, c'est donc dans ces cas-là...
Intermédiaire extérieur. Alors, troisième problème, les partenariats entre médias, promotion, sur les autres médias, etc. Et là, on sait aussi des échanges très nombreux qu'il existe sur ce type d'accord, pas toujours connu d'ailleurs.
Par exemple, je me souviens que quand j'étais aux Échos, nous fournissions une émission économique pour LCI. Et donc, nous avions la direction qui nous avait bloqué quand même quelques articles sur TF1, un peu poil à gratter à cause de ça. Et je pourrais aussi un peu parler de nos amis de Mediapart, par exemple. Parce que,
parlons-en, ils sont dans l'actualité cette semaine,
week-end. Mais Edoui Plenel lui-même dit que, heureusement qu'il y a les radios et les télés qui l'invitent pour parler de son site et faire...
Et donc, ils ne parlent pas des médias, eux?
Ils font beaucoup d'investigations tous azimuts, mais sur les médias, j'en vois pas. Donc, ils ont même recruté un excellent journaliste qui venait d'arrêt sur image, mais qui fait pas ça. Donc, il y a un angle mort visiblement dans l'investigation.
Heureusement, il y a Rue 89 qui compense par une chronique média extraordinaire, dont tous les journalistes qui s'en occupent peu à peu se fâchent avec tout le monde, sont obligés d'aller trouver un travail ailleurs. C'est ça aussi le problème, Pierre Aski.
Ouais. Bien sûr, alors on est dans un. Il y a plusieurs pièges en fait dans la rubrique média.
En fait, il y a des pièges.
Il y a ceux dont on a parlé qui sont ceux d'apparaître comme défendant son groupe ou faisant de la concurrence déloyale ou faisant passer des messages, etc. Mais il y a aussi, tout simplement pour le journaliste, le fait de se griller ou de se fâcher avec la terre entière, parce que d'avoir l'air d'être donneur de leçons dès qu'on souligne un problème déontologique qui est chez le concurrent. Enfin bref...
Dans Soft Power, puisqu'on est boycotté déjà de plusieurs rédactions, on ne dira pas lesquelles. Elles sont tellement nombreuses, il faut bien le dire.
Mais en même temps, il faut bien le dire, c'est une rubrique absolument essentielle, parce que il y a Il y a d'ailleurs trop peu de veille.
On a l'impression que seuls les médias, et en particulier les journalistes, n'aiment pas la critique. C'est quand même quelque chose de très étonnant et en même temps, comme si ça leur appartenait et entre eux, ils s'arrangeaient.
Aucun métier n'aime se faire critiquer. Hein.
Oui, mais le problème, c'est qu'ils ont le pouvoir de l'information, justement, et de la critique.
Oui, mais ça, c'est un vieux problème qui, je pense, est dû à la mentalité ancienne du journalisme qui était très vertical, très donneur de leçons, très dans une posture au-dessus de tout, notamment de toute critique, et qui, à mon avis, avec Internet, est en train de changer, parce que Internet casse cette verticalité et expose, y compris les journalistes, à la critique. Parce que non seulement il y a les journalistes pour faire la critique du journalisme, mais il y a surtout maintenant les lecteurs. Et ça, c'est l'important aujourd'hui, c'est que ce sont les lecteurs qui sont en première ligne.
Ce sont des pages très lues, par exemple sur Rue 89, les pages médias.
Oui, parce que tout le monde adore quand on se paye Apathy ou quand on se paye Le Grand Journal,
François-Olivier Gisbert,
etc. C'est-à-dire qu'il y a des têtes de Turc aujourd'hui. Et Internet a pris les figures médiatiques anciennes comme têtes de Turc. Donc là, on a cette guéguerre entre la nouvelle génération de lecteurs d'Internet et les vieilles figures du journalisme. Donc ça devient un exercice classique.
Alors Jamal Hani, vous êtes notamment, vous travaillez à BFM Business et vous faites des enquêtes médias régulièrement, d'ailleurs souvent elles sont très remarquées. Quelles sont les solutions pour rester crédible dans ce secteur que vous couvrez quotidiennement ?
D'abord, je pense qu'il faut, quand il y a un conflit d'intérêts potentiel, il faut le dire dans l'article. C'est-à-dire, voilà.
Le disclaimer, comme on dit en anglais, c'est-à-dire rendre visible les choses qui ne sont pas sûres.
Que font beaucoup les anglo-saxons. Si vous regardez une dépêche Bloomberg qui parle de Reuters, ils disent on est concurrent. Bon, ça se fait pas trop dans la presse française, mais bon, moi je.
Ça se lit dans Le Monde souvent, on le voit par exemple. Quand tu parles de Pierre Berger ou de Xavier Niel, ils rappellent bien sûr qu'ils sont actionnaires.
Il y a dire qui sont vos actionnaires. Alors ça a l'air tout con, et c'est même, je crois que c'était dans le programme du Conseil national de la résistance, mais par exemple, l'opinion ne veut pas dire qui sont les actionnaires. Mediapart, c'était notre ami Emmanuel Paquette, l'excellent, qui avait révélé qu'il y avait un fonds ISF qui était dans Mediapart, ce que M. Plenel n'avait jamais dit. Sur Slate, on a découvert qu'il y avait LVMH et Pierre Leroy, un dirigeant de Lagardère, qui était dedans, il n'avait jamais dit non plus. Donc, ça a l'air tout con de dire qui sont nos actionnaires, mais ce n'est pas si fréquent que ça.
Première solution.
C'est une obligation légale. Et il y a aussi dire qui sont nos concurrents. Quand on fait un article sur un concurrent, on peut peut-être signaler que c'est un concurrent. Évidemment, il y a eu aussi, par exemple, aux Échos, un problème sur le traitement des radios classiques. Et ils ont un comité d'indépendance éditoriale, etc. En gros, la direction voulait qu'on mette en avant les excellents résultats de Radio Classique, qui est une radio qui appartient au même groupe que les Échos. Et la rédaction disait, ah ben non, nous on veut pas, on veut traiter ça de manière totalement, enfin comme si une radio comme une autre.
Surtout si les résultats baissaient.
Ou pas forcément, enfin bon, et donc il y a aussi cette question, dire aussi qu'un média appartient au même groupe, et dans ce cas-là, essayer de le traiter comme on traiterait un autre média.
Une autre solution ou il n'y en a pas d'autre ?
Ensuite, il ne faut peut-être pas aller chercher ses ordres à la direction.
Installer des murailles de Chine, vraiment, séparer complètement les choses, ça marche ? Et jusqu'à quel point ?
Dans la plupart des journaux, en théorie, ce n'est pas le propriétaire qui regarde ce qui se passe.
Et en même temps, une fois qu'on a dit ça, Jamal Hani, on s'aperçoit quand même, quand on regarde, quand on lit la presse, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les journaux, on regarde la télévision, on écoute la radio, on s'aperçoit qu'il y a quand même assez peu d'enquêtes qui éclairent réellement sur les mutations que sont en train de vivre les médias, sur les entreprises de presse de médias. Et on a la sensation que, en fait, entre la critique systématique un peu à la Bourdieu, un peu à la chien de garde qui a existé en France.
Ou même Daniel Schneiderman.
Oui, et avec Arrêt sur image. Il y a une tradition en France qui est encore assez vivace, même si elle a perdu un peu de sa superbe. Et finalement, une forme de journalisme qui parfois frôle la complaisance. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. Il n'existe pas vraiment des pages particulièrement remarquées ou des rubriques particulièrement remarquées qui nous éclairent sur cette espèce de tsunami quand même qui est en train de traverser cette profession et ce secteur.
Jamal Hani, BFM Business.
Il faut dire que on peut comprendre aussi, alors que les journalistes n'ont peut-être pas envie de, par exemple, la presse papier n'a peut-être pas envie de décrire sa mort fort certaine et rapide. Donc, évidemment, je pense que
les pulsions suicidaires sont limitées, vous voulez dire.
Voilà, sur cet aspect-là, c'est vrai que c'est peut-être pas très, 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 très punchy.
Pierre Aski.
C'est-à-dire qu'il y a aussi cette sorte d'omerta sur les... Quand le monde est en crise, il faut lire Libération et pas Le Monde pour savoir ce qui s'y passe. Et réciproquement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à parler de soi-même.
De soi, oui.
Là, en ce moment, vous avez le contre-exemple avec Libération, mais qui sont des pages imposées par la rédaction à l'actionnaire où les journalistes de Libération
et
leurs lecteurs
se racontent. Et en même
temps, on
voit bien qu'autre que dans les pages, les fameuses pages de Libération qui sont quand même très contesté, parfois contestable, nous sommes un journal, on voit bien que le reste de la presse parle, bien sûr, évoque cette crise à Libération, mais quel est le grand papier, quelle est la grande enquête aujourd'hui qui a réellement éclairé sur cette crise à Libération?
Pour rebondir sur ce que dit Agnès Chevaux, il n'y a pas de canoleta, pour citer le nom d'un très grand journaliste américain qui fait presque chaque mois des papiers de très grande bonne tenue dans le New Yorker sur l'état de la presse ou des médias d'ailleurs aux États-Unis. Pourquoi il n'y a pas au fond ces équivalents français, Jamal Eni, si vous avez une réponse à cette question?
Mais vous l'avez dit vous-même, voilà, le Figaro, quand ils font des audiences web excellentes, ils les mettent en avant. Évidemment, il y a des articles anti-Google, disons que Google est un gros méchant, etc. Donc, je suis désolé pour mes confrères du Figaro que j'aime beaucoup, mais...
Nous aussi.
Clairement, il y a une volonté d'utiliser la page média pour défendre les intérêts stratégiques du journal. C'était bien pire du temps de Chaise Martin, et je me souviens d'une consoeur...
L'ancien patron du Figaro.
Voilà, qui était allé voir Chaise Martin et qui lui avait dit « Mais vous savez quand même, votre page média, elle est quand même très très proche de TF1. » Et Chaise Martin a répondu « Mais écoutez, ma bonne dame, je le sais parfaitement, c'est exprès. » Donc voilà. Alors,
c'est volontaire.
C'est ça la dérive dans laquelle tombent beaucoup de sections médias, c'est d'être utilisé pour défendre l'intérêt soit de son entreprise, soit de son secteur.
Alors, il y a eu notamment le regretté qu'on aimait beaucoup ici, Philippe Cohen, qui avait eu le projet d'un canard enchaîné des médias, qui n'a jamais vu le jour. Pierre Aski, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas évoluer vers ça un jour? Même si le canard enchaîné a sa petite chronique et rubrique sur ces sujets, oui, certaines choses sont dites. Mais...
Parce qu'effectivement, les gens qui se sont mis dans ce créneau de la critique des médias ont cette approche idéologique dont parlait Agnès tout à l'heure, que ce soit d'ailleurs, Acrimed, par exemple, ou dans un autre genre plus journalistique, Arrêt sur Image. Mais ce qui est dommage, c'est que
Ou le gauchisme ou la compromission.
Mais ce qui est dommage, c'est que les journaux eux-mêmes n'aient pas senti le besoin, la nécessité d'avoir un espace de liberté qui les aiderait à progresser. Il y a de temps en temps des petits éclairs comme ça. Prenez cet article qu'avait fait Ternisien dans Le Monde il y a quelques années. Xavier Ternisien, qui s'occupait de la rubrique média, sur les forçats du web, qui décrivait les conditions de travail dans la plupart, c'est-à-dire des poulets en batterie, dans la plupart des sites d'info. Je pense que cet article...
Ils ne sont pas comme ça, Rue 89.
Non, ce n'est pas comme ça, Rue 89, qui était un pur player.
Et il s'en était pris plein la gueule, Xavier Ternisien.
Il s'en est pris plein la gueule, mais il a aidé, je pense, cet article à faire évoluer la manière dont on fonctionne dans les sites d'info des grands médias. Et je pense que les journaux auraient tout à gagner aujourd'hui à avoir des gens qui ont le terrain libre, la bride lâchée. Pour comprendre ce qui est en train d'arriver à cette profession qui subit évidemment une transformation absolument colossale et que les directions souvent ignorent à leurs dépens.
Bon, heureusement, vous avez Soft Power. C'est tous les dimanches en direct de 19h à 20h sur France Culture. On en reste là pour ce soir. On se quitte d'ailleurs avec, il y a 50 ans, hein, ce 16 avril 1964, un petit peu plus de 50 ans pour être exact, sortait le premier album des Rolling Stones, date anniversaire intitulée justement ce premier album, Rolling Stone. C'était chez Decca, avec seulement 3 compositions originales et des reprises d'autres compositeurs, dont celle-ci qu'on écoute à l'instant de Willie Dixon, I just want to make love to you, I just want to make love to you, pour le dire autrement, c'était il y a 50 ans. cette semaine anniversaire. Merci à Karine Barzega en studio avec nous. Bonsoir madame. Merci à Jamal Eni qui va devoir trouver un nouveau boulot, je sens, après cette émission Soft Power. Merci Pierre Aski, Agnès Chevaux. Cette émission Soft Power a été préparée par Mathias Meji et Théo Corbouchy, à la régie Jean-Guilain Meij. Une émission Soft Power de Frédéric Martel avec Agnès Chevaux, Pierre Aski, et réalisée ce soir par Perret Legras. Dans un instant, 20h, vous retrouvez Sophie Nolot pour Ça rime à quoi. Bonne soirée à l'écoute des Rolling Stones et de notre chaîne.